14. L'aventure du fier baiser. Seigneur Dieu, se dit-il, que va-t-il m'arriver à cause du cruel baiser que j'ai reçu? J'ai reçu là un atroce baiser, me voici trahi. Le diable m'a ensorcelé, que j'ai embrassé contre mon gré. Je ne donne pas bien cher de ma vie. Renaud de Beaujeu. En ce temps-là, la triste guerre qui avait accablé naguère le royaume de Léomance, de tragédies et de violences, marquait encore les mémoires d'épouvante plus que de gloire. Nombre d'hommes étaient postés le long des marches du duché. Ils montaient une garde inquiète au seuil des provinces défaites. À la place de Ferréal, l'antique domaine royal, ne restait qu'une gaste terre, rongée de charmes délétères, de sorte qu'il était de mise de l'appeler les Landes Grises. Voyant que le bel églantier semblait fermement décidé à traverser cette contrée, des guettes bien intentionnées voulurent l'en dissuader. C'était folie de se lancer dans si périlleuse entreprise avec deux garçonnets en guise de compagnie de gens armés. En effet, le bel églantier se trouvait à peine escorté par un juvénile écuyer, ainsi que par le beau trouvé. Il risquait fort de succomber aux maléfices et durs pièges entretissés de sortilèges. Mais nul ne put décourager le projet du bel églantier. Le chevalier faisait confiance aux ressources de sa vaillance. Ne s'enorgueillissait-il point d'avoir vaincu plus d'un défunt qui était sorti de la tombe? Il disait que des catacombes, montrant un peu d'agitation, ne brideraient son ambition de voyager en terre gaste. Là, la province était plus vaste que les vallons et les demeures où il avait jusqu'à cette heure affronté, l'âme à peu près sûre, fantômes, spectres et lémures. Du haut des cols du Chevêchin, il découvrit dans les lointains tout un pays à l'abandon, assombri de malédictions. Peut-être, en d'autres circonstances, eût-il montré plus de prudence. Mais il s'en tint à son dessein, car il avait pris à témoin la dame de la Tour Plaisante. Il estimait déshonorante toute forme de dérobade et préférait la promenade parmi des revenants infâmes au dédain de la belle dame. Le beau trouvé, de son côté, n'était pas vraiment enchanté de remplir la fonction de guide dans ces territoires putrides. Comme il craignait de mal finir, il avait voulu déguerpir, sitôt saisi une occasion. Cette tentative d'évasion n'avait jamais pu aboutir. Sachant qu'il songeait à s'enfuir, le chevalier avait veillé à ne jamais s'en écarter et lui avait tenu la bride avec une poigne solide, tant et si bien que le fripon n'avait pas pu faire faux bond. Aussi, découvrant à ses pieds les sinistres immensités des terres vouées au malheur, il feignit une grande peur. « Les sentinelles ont raison, » protesta le rusé garçon. C'est folie de s'aventurer dans cet enfer maléficier. Ne l'as-tu déjà traversé ? Repartit le bel églantier. Si fait, mais en un autre temps. Le pays était accueillant au jour passé de la puissance des souverains de Léomance. Le voyage était un jeu d'enfant. Or, on ira autrement. Le chevalier fut étonné d'apprendre que le beau trouvé avait connu cette contrée avant qu'elle ne fût dévastée, car la guerre des grands vassaux avait semé ses derniers maux peu avant sa propre naissance. S'il en croyait la confidence avouée par le beau trouvé, l'enfant aurait été l'aîné et l'homme accompli le cadet. Extravagant état de fait. Il n'y crut d'ailleurs qu'à moitié, flairant un conte mensonger. Mais il plut au bel églantier de voir le coquin effrayé. Cela raffermit son courage d'exposer ainsi son otage, et la peur lâchant toute prise, il entra dans les Landes Grises. Commença un sombre voyage parmi de funèbres parages. brandes, friches et marais mornes, fanaient sur l'horizon sans bornes. Il pesait sur ses étendues des désolations éperdues. Au loin, des ruines de châteaux se dressaient comme des chicots. Là, des vestiges religieux érigeaient vers de tristes cieux des colonnades fracassées et des coupoles éventrées. Ailleurs, des murailles crevées livraient des cités désertées, et pourtant d'inquiétantes ombres hantaient encore ces décombres. Quelques surgeons des habitants et rejetons de vétérans s'accrochaient à ces lieux sinistres sous la férule des ministres de l'hérésie du desséché. Malheur à ces déshérités. Les terres n'étant plus fertiles, leur survie s'avérait fragile. La faim les rendait rachitiques et la détresse maléfique. Il subsistait de brigandages, voire d'encas anthropophages. En d'autres ruines, des fantômes croyaient toujours que le royaume se devait d'être défendu contre ceux qui l'avaient perdu. Équipés d'armes éthériques et de cavales squelettiques, ils perpétuaient les ravages perpétrés en des temps sauvages. Poussés par des prêtres déments, il arrivait que des vivants acceptent de prêter hommage à ces lémures d'un autre âge. On voyait alors marauder en des bataillons décharnés les revenants et les mortels affamés d'actes criminels. Là, il était d'autres dangers que ces macabres meurtriers. Le dévoiement thaumaturgique des plus puissants ecclésiastiques au service du desséché avait hélas ensorcelé de vastes manses seigneuriaux. Sur ces territoires spectraux, d'épouvantables anathèmes troublaient le cours du temps lui-même. Un soleil noir errait la nuit et de froids astres à midi. Le cours croupissant des rivières remontait vers les hautes terres. Les arbres morts donnaient des fruits, gros comme des chancres pourris. Les charognes les plus flétries mimaient le retour à la vie. Dans ces géhennes envoûtées, il arrivait que des armées piégées par la boucle achronique rôdent infiniment tragiques. Quiconque croisait leur chemin connaissait le même destin. En se frottant imprudemment à ces affreux enchantements, le bel églantier fut souvent près de l'anéantissement. Il s'égara avec ses gens et endura bien des tourments. Aidé par son jeune écuyer, il put sans peine repousser quelques traquenards assassins, ourdis par des crèves la faim, mais ce fut bientôt à leur tour de dépérir jour après jour sous la dent de dames disettes. On eût cru, à voir leur silhouette, que suivant la mode locale, ils prenaient l'allure spectrale. Heureusement, le beau trouvé semblait doté d'un sens inné pour flairer les enchantements. Grâce à ces avertissements, ils évitèrent plusieurs fois des impasses suant les froids. Mais ils burent des eaux malsaines, eurent fièvre paludéenne et l'entendement obscurci. Au cœur des ombres de la nuit, ils ne savaient plus distinguer le fantôme aux traits émaciés des folles fantasmagories recuites par la maladie. Au terme d'un affreux voyage, ils crurent à quelques mirages que la fièvre aurait évoqués, quand finirent par se hausser les ombrages d'une forêt. Ces bois paraissaient fort épais et d'un abord peu accueillant. Mais les arbres étaient vivants, et la houle de leur feuillage bruissait de graves chuchotages. Des ruisseaux aux eaux cristallines couraient au pied de leurs racines. Cette onde fit plus qu'étancher la pépite des trois cavaliers. Leur malaria en fut nantie d'une légère griserie. Ce fut donc le cœur soulagé que la ménie du chevalier entra sous la ramée obscure, froissée de menaçants murmures. Dans son esprit tout enfiévré, il semblait au bel églantier qu'au plus profond de ses bois noirs l'attendaient de brillants espoirs. Bientôt, comme pour confirmer qu'ils étaient en train d'arriver en des lieux plus hospitaliers, ils virent dessus les halliers les courtines majestueuses d'une forteresse orgueilleuse. Aussitôt, le bel églantier arrêta de s'y présenter et voulut chevaucher tout droit vers cette demeure au haut toit. Mais le beau trouvé conseilla de ne point trop hâter le pas et il mit en garde à propos de ce magnifique château. Où vous pressez-vous de courir? Ne prenez pas votre désir pour la ferme réalité, car vous allez nous égarer dans les marches crépusculaires où presque tout n'est que chimère. Vous ne voyez qu'une illusion qui altère votre raison. En voulant gagner ces remparts, vous n'aboutirez nulle part. » Ses compagnons, pour commencer, refusèrent de l'écouter et marchèrent vers le palais. Mais celui-ci se dérobait dans des paysages brumeux, pleins de faux-semblants merveilleux. Le beau trouvé, en serre-fil, raillait cette course inutile. « Nous voici tels des papillons qui volaient vers un lampion. » Craignant de faire fausse route, le chevalier, pris par un doute, finit par redoubler d'efforts pour mieux voir l'évanescent fort. Alors, tours, toits et cheminées s'évanouirent en fumée pour ne plus laisser apparaître que les houppiers de très grands êtres. Nous sommes rendus aux lisières des futaies de la Lysandière, condescendit à expliquer en ricanant le beau trouvé. Une trompeuse féerie y puise dans nos rêveries tout ce qui peut nous fourvoyer. Désormais, il faut nous défier de la plupart des apparences. » Bientôt le cours de leur errance amena les trois cavaliers en présence d'un forestier. C'était un champion tout armé, monté sur un noir destrier. Ce chevalier en grand arroi défendait un pont fort étroit. Le bel églantier le pria de les laisser franchir ce pas. En retour, l'arrogant gardien n'eut qu'un grognement de dédain. Le bel églantier, offensé, était tout près de le défier quand son courroux fut émoussé par le rire du beau trouvé. Cela dessilla son regard, juste avant qu'il ne fût trop tard. À la place d'un chevalier, il n'y avait qu'un sanglier, et au lieu d'un beau pont de pierre, dessus les flots d'une rivière, ne gisait qu'un arbre tombé où la charge d'un cavalier rendait une chute certaine. Après avoir tiré les rênes, le bel églantier s'indigna de ces mirages scélérats. Non sans humeur, il remercia le beau trouvé, puis demanda « Comment fais-tu pour éventer ces vilains tours ensorcelés? Ta fée t'a-t-elle fait leçon pour conjurer ces illusions ?» Au vrai, c'est plutôt le contraire. Cela la mettait en colère de ne pouvoir m'embobiner dans ses charmes entortillés. Elle prenait ma clairvoyance pour une odieuse impertinence. Voilà pourquoi je fus chassé. Les autres motifs allégués pour justifier ma défaveur n'étaient que verbiage trompeur. En fait, j'ai été exilé pour avoir froissé sa fierté. Bien qu'il fût assez contrarié d'en être réduit à se fier aux avis du fourbe garçon, le chevalier donna raison à son attitude sceptique. Il regarda d'un œil critique les hautes futaies alentour, en cherchant à percer les tours qu'on essayait de lui jouer. Peu après, quand deux étrangers entreprirent de l'escorter, il hésita à saluer. Car ce dû au nouveau venu était gentiment apparu avec beaucoup de naturel. Il parut tellement réel que d'abord le bel églantier crut qu'il lui était familier. Il s'agissait de chevaliers fort étroitement cuirassés dans un luxueux équipage, chatoyant ainsi qu'un plumage. L'un portait sur ses armoiries les ailes coudées de deux pies. L'autre avait sur sa houppelande fait figurer trois jets en bande. Ils marchaient avec grande allure, parmi les bois et la verdure, comme s'ils avaient paradé aux côtés du bel églantier. Résistant à la tentation d'ouvrir une conversation, le chevalier fit de son mieux pour ne pas se fier à ses yeux. Bientôt, la fantasmagorie se réduisit à une pie accompagnée par un gros jet. Le chevalier crut désormais qu'il ne serait plus mystifié par les tours du bois enchanté. Lorsqu'une accorte compagnie de dames nobles et jolies lui fit courtoise révérence, il ne montra qu'indifférence, et au lieu des ensorceleuses ne vit que des biches gracieuses. Plus loin, la forêt se fit halle, et au milieu de la grande salle était dressé un vrai festin riche de vin et de mets fins. Quoique tourmenté par la faim, le trio passa son chemin et ne laissa sur ses arrières qu'une ténébreuse clairière où poussait un cercle traîtreux de gros champignons vénéneux. Les voyageurs ne croyaient plus tous ces spectacles saugrenus. Aussi n'eurent-ils point d'effroi quand retentit au fond des bois un vacarme tonitruant. Une tourmente de grand vent semblait malmener la ramée sous une tempête effrénée. Bientôt le grincement des branches se doubla d'un bruit d'avalanche, car le sol se mit à trembler sous un séisme cadencé. Les chevaux devinrent nerveux, tandis que ce fracas affreux se rapprochait des voyageurs. Ceux-ci ne montraient nulle peur, cherchant à se persuader qu'on voulait encore les leurrer. Et pourtant, ils virent tomber de grands arbres déracinés sous de monstrueuses bourrades, aussi fortes qu'une tornade. Il leur fallut bien maîtriser l'affolement des destriers quand, creusant parmi les branchages de dévastateurs arrachages, surgit une énorme géante d'une apparence repoussante. Le bel églantier, occupé à ne point vider l'étrier, ne montra guère d'attention à la terrible apparition. Quand l'ogresse lui intima de dire ce qu'il faisait là, il l'ignora avec superbe, préférant réserver son verbe à des causeurs moins incroyables. Ce monstre si épouvantable ne pouvait être qu'illusion. Mais très vite, sa conviction commença à se fissurer devant la peur du beau trouvé, car le coquin avait pâli face au laideron inouï. « Allons, allons, un peu de cœur !» lança le chevalier moqueur. « Ce n'est qu'une vision de plus. »«
Ah, comme je l'aurais voulu !»
se lamenta le beau trouvé.
« Hélas, il nous faut déchanter. Cette géante est bien réelle et sa force vraiment mortelle. »«
Je suis on ne peut plus réel !» fit la gigantesque donzelle.
Et je m'en vais vous écraser pour avoir osé ramener cet insupportable avorton jusqu'au cœur de mes possessions. »
Alors, le chevalier maudit l'enfant qui lui avait menti. « La dame n'a rien d'une fée, » dit le preux en tirant l'épée. « Comment faire des politesses avec cette cruelle ogresse? Tu mérites que je sévisse avant même qu'elle périsse. » À ces mots, l'horrible géante se gaudit de gaieté méchante. « Sachez, minuscule messire, » rugit-elle dans un gros rire, « que vous me ferez grand plaisir en rossant ce drôle à loisir. Selon que vous l'aurez châtié, je n'aurai plus qu'à décider à quelle sauce vous mangez. »
Cependant, le bel églantier n'était pas tout à fait d'avis d'assouvir l'ogresse qu'appétit. Il essaya donc d'engager des prémices de pourparler.
« Soyez assurés, haute dame, que je ferai goûter ma lame à cet ignoble freluquet afin de punir ses méfaits. Mais pour établir ses forfaits, il lui faut un juste procès. Or, c'est dans ce dessein précis que je suis venu jusqu'ici. On m'a rapporté qu'une fée qui vit au fond de ces contrées pourrait délivrer témoignage contre ce drôle et ses outrages. Cela permettra de prouver toute sa culpabilité.
Peut-être pourriez-vous remettre votre désir de vous repaître de mes honorables abats, ainsi que le rude combat qu'il vous faudra bien me livrer, juste le temps de consulter la fée qui a été froissée. »
La monstrueuse mijaurée, à ces mots, prit l'air soupçonneux.
« Voici un pourvoi merveilleux !» gronda la géante mégère. « Quoi ?
différer la bonne chère pour s'épuiser en argusies et assommantes plaidoiries? À creuser ainsi ma fringale, vous n'aurez que mort plus brutale. Vous n'en savourerez que mieux un pique-nique si juteux. Et puisque vous l'aurez aidé, la fée sera votre obligée. D'ailleurs, avec un peu de chance, sans doute avez-vous connaissance de la retraite où je pourrais trouver la dame des forêts. Quelle requête de Jocris, ma proie qui réclame un service. Le mot manque de courtoisie. Vous pourriez être plus poli avec votre futur gibier, car enfin il est fort prisé de tenir des propos aimables avec ses compagnons de table. Au lieu donc de prendre la mouche, tenez pour une mise en bouche à vos imminentes bombances l'insignifiante prévenance d'un peu répondre à mes questions. » Une suspicieuse expression enlaidit encore davantage les traits de l'ogresse sauvage. Elle dit, l'air acrimonieux,
« N'êtes-vous venu en ces lieux que pour suivre une procédure ?»«
Sur mon honneur, je vous le jure. » »«
Je n'en crois rien. Même un héros ne pourrait être un si grand sot qu'il viendrait se perdre en ces bois pour d'obscures questions de loi. » »«
C'est là l'entière vérité. »
« N'avez-vous pas prémédité de découvrir tous les secrets qui dorment au fond des bosquets, afin d'en piller les trésors ?»«
Je n'ai que faire de votre or. Seule la justice et la gloire m'ont amené dans cette histoire. »«
Seriez-vous là uniquement pour le procès d'un chenapan ?»«
Si fait. Je n'ai qu'une parole. Ma quête n'a rien de frivole. » Secouée par un rire énorme qui la fit encore plus difforme, la géante se laissa choir sur un derrière gras à lard.
« Nigo, tu as tant de vertu qu'avant de te manger tout cru, je vais t'offrir mes bons offices et satisfaire ton caprice. »
« Mille grâces, dame vorace.
Je ne cède de guerre lasse. Sache que j'attends de ta part les plus attentionnés égards. Je te mènerai où tu veux, mais uniquement si tu peux remplir certaines conditions de courage et d'abnégation.
C'est assurément dans mes cordes. Vous pouvez abréger l'exorde.
Puisque te voici si hardi, je te mets séant au défi afin d'obtenir mon secours. Offre-moi un gage d'amour. Je veux un langoureux baiser pour révéler ce que je sais. Si tu n'es pas du tout farouche et viens m'embrasser sur la bouche, alors je te transporterai jusque là où tu veux aller. »
Ces avances inattendues furent diversement reçues. Sans rien cacher, le beau trouvé prit un air vraiment dégoûté. Le jeune écuyer, quant à lui, se mit à pousser les hauts cris. «
Seigneur, gardez-vous de l'ogresse. À coup sûr, c'est scélératesse. Dès que vous aurez approché, elle va vouloir vous dévorer. »
Au reste, le bel églantier lui-même parut hésiter. La dame était si colossale qu'une étreinte serait fatale. Mais encore plus redoutable était sa laideur effroyable. Sa hue rendantée de grands crocs avait la largeur d'un tonneau, et de longues mèches pouilleuses poissaient sa face verruqueuse. Constatant son peu d'enthousiasme, l'ogresse gronda ce sarcasme.
« Eh quoi ? Si je ne te plais pas, sautons aussitôt au repas !»
Prenant sur lui, le chevalier résolut de se sacrifier.
« C'est qu'il n'est point dans mes usages de cueillir preste bécotage, »
bredouilla-t-il d'un air gêné.
« Mais comment peut-on refuser à une dame au gros appât la douceur de quelques ébats ?»
Sitôt dit, le bel églantier s'avança sans plus barguigner, le dos raide et les dents serrées.
« Écarte la main de l'épée !»
gourmanda l'horrible maîtresse.
je ne goûte pas les tendresses que l'on fait avec ses estoques. »
Désormais ferme comme un roc, le chevalier se cuirassa contre le dégoût et l'effroi. Il entra dans l'ombre puante de la licencieuse géante et s'offrit courageusement au repoussant embrassement. Tout juste ferma-t-il les yeux lorsque le museau pustuleux envahit son champ de vision. Quelle fut sa stupéfaction de goûter sur ce mufle hideux un ravissement délicieux. Il eût juré se délecter d'un fruit tendre, frais et sucré, tandis qu'un frisson de plaisir manquait le faire défaillir. Il en eut le souffle coupé, tant il était bouleversé de boire cette volupté à un vase d'iniquité. Quand l'incroyable séductrice mit un terme lent aux délices, le chevalier, encore pâmé, rouvrit des yeux émerveillés. En lieu et place de l'ogresse, se tenait une enchanteresse parée de charmes invincibles et d'un sourire irrésistible. Aussitôt, le bel églantier se trouva ensorcelé par l'émeraude des prunelles de cette incomparable belle.
Pour prix de courtoise prouesse, dit l'envoûtante charmeresse, vos volontés sont exaucées et vous voici devant la fée.
Le chevalier resta sans voix, tant furent puissants ses émois, et l'écuyer, tout retourné, apostropha le beau trouvé. Tu aurais pu nous aviser que nous étions encore joués. À quoi répondit le garçon? Ce n'était point une illusion, mais réelle métamorphose. C'est là une tout autre chose. Les talents de la licendière lui donnent l'art et la manière d'adopter le corps qu'elle veut. Le coquin avait l'air nerveux et restait à bonne distance de l'étourdissante présence rayonnant de la magicienne. Sa vénusté marmoréenne, révélée par le fier baiser, foudroya le bel églantier. Subjugué par tant de beauté, il parut avoir oublié la requête qui l'amenait, qui il était, d'où il venait, voir le monde tout entier. La dame sembla apprécier cette flatteuse pamoison, mais rouvrit la conversation avec une moue impatiente. Revenons tout à fait ressaisante, au motif de votre incursion, lança la belle apparition. Je n'accorde guère d'audience aux gens qui ont l'impertinence d'entrer sur mes propriétés sans que je les aie invités. En ayant osé m'embrasser, vous avez seulement gagné le privilège d'expliquer votre effraction dans mes alliés.
L'occasion de vous admirer. C'est Bobby le bel églantier.
Est la seule réponse honnête à faire à dame si parfaite. Sitôt la fée de répliquer avec quelque vivacité, hey, je ne le sais que trop bien. Mais qu'en est-il de ce vaurien et de ce prétendu procès? Quel rapport avec mes attraits?
Ce polisson a soutenu que parce qu'il avait déplu, vous lui avez jeté un sort en rétribution de ses torts. Poursuivi pour larronnerie, il a dit dans sa plaidoirie que vos charmes l'ont condamné à l'enfance à perpétuité. De là viendrait sa vilenie, ses mauvais tours et ses folies. Pour arrêter s'il est coupable, il m'a semblé plus équitable de m'en venir vous demander s'il a bien dit la vérité.
Vous vous êtes donné grand mal pour me ramener l'animal,
dit la dame d'un air pincé.
J'avais fini par l'oublier, cet irritant petit fâcheux. En tout cas, je m'explique mieux comment vous avez déjoué tous les tours que j'ai évoqués.
Vous me voyez désespéré d'avoir pu vous indisposer.
Se désola le chevalier. Voyez, je me jette à vos pieds, en implorant votre pardon pour cette grossière intrusion. Je n'aurai pas l'incorrection de vous poser plus de questions. Chassé par dame si aimable, le drôle est forcément coupable. » Le beau trouvé se révolta, mais la fée n'en fit pas grand cas. Il va de soi qu'il est fautif de 1000 impairs intempestifs, dit-elle d'un air de mépris. Mais vous, vous l'êtes autant que lui en ayant eu l'impertinence de me remettre en sa présence. Si vous désirez le châtier, un mot de vous et c'est réglé. Son sort avait été tranché. Il avait été exilé. Or, c'était sage décision au vu de la situation. Ce qui est chez lui si odieux, cet avilissement vicieux, c'est la faute de ses parents, car il s'agit d'un demi-sang, moitié elfe et moitié humain, moitié carpe et moitié lapin. Il a cherché à me duper en voulant se faire passer pour un rejeton de mortel, alors qu'il n'est pas vraiment tel. En abusant de ma confiance, il a perdu ma bienveillance. Mais il serait inélégant de le frapper cruellement pour sa naissance malheureuse. Sa vie sera déjà fougueuse, sans y mettre mon grain de sel. Qu'il promène ailleurs tout son fiel. Qu'il me soulage des sottises sécrétées par sa bâtardise. Oust ! Qu'il aille voir ailleurs s'il attend un monde meilleur. Quant à vous, naïf chevalier, vous allez devoir réparer la bévue d'avoir accouru, suivi de cet hurluberlu. Sur ma vie, dame, je ferai tout ce que vous ordonnerez. Débarrassez-moi sur le champ de cet effronté sacripant. Je vous prie de le ramener au lieu où vous l'avez trouvé. Si cela peut vous satisfaire, ainsi sera fait pour vous plaire. Cependant, j'ai quelques scrupules à renvoyer cette crapule parmi des gens qu'il a dupés et vilainement offensés. J'ai devoir de les protéger, comme je veux vous agréer. Si on donne élargissement, ainsi fier fait chenapan, ce sera lui lâcher la bride pour reprendre ses tours perfides. Puisque vous vous en inquiétez, vous n'aurez qu'à le surveiller. Mais à cette fin, il faudrait m'éloigner de vous à jamais, car le coquin grandit si peu que je serais devenu vieux bien avant son premier duvet. Pour garder ce mauvais sujet, je gâcherais mon existence dans une infinie surveillance, sans même nourrir quelque espoir de pouvoir un jour vous revoir. Car le dessein de revenir serait déjà désobéir. Me trouver séparé de vous après votre baiser si doux me frappera d'un tel malheur que vous me briserez le cœur. Je ne m'en relèverai pas. Je connaîtrai un prompt trépas. Vous aurez fait mauvaise affaire, car quand je serai mis en terre, ce petit gibier de potence rechutera en malfaisance. La fée ne parut nullement affectée par cet argument. « Il est aisé de remédier à pareille difficulté, » dit-elle sur un ton léger. « Il suffit que vous acceptiez d'être mon chevalier servant, et comme par enchantement je vous donnerai longue vie pour me trouver au mieux servi. » En entendant cette merveille, le preux n'en crut pas ses oreilles, et empli d'un amour ardent sans réfléchir, prêta serment. Étant déjà agenouillé, il se laissa vassaliser. Il abandonna ses mains jointes à la suavissime étreinte de celle de la licendière. Sous cette caresse légère, il frémit d'un si grand désir qu'il fut bien près de défaillir, et pourtant, au même moment, quelques gouttelettes de sang venaient doucement de couler entre leurs doigts entrelacés. Lorsque la dame eut libéré les mains jointes du chevalier, le bel églantier découvrit qu'en ses paumes avait fleuri l'églantine de son blason tel un gage de soumission. Les épines l'avaient griffée, mais les pétales blancs rosés s'ouvraient en fragile calice parfumé de mille délices. En faisant avenante mine, la dame cueillit l'églantine. Elle dit d'un ton mélodieux, en la piquant dans ses cheveux, « J'accepte ce gage d'amour qui vous lie à moi pour toujours. Je conserverai cette fleur dans mon secret jardin des cœurs, mais je vous laisse les épines. La morsure de ces canines vous fera éprouver sans cesse la dilection de ma tendresse. Cet amour vous cuirassera contre l'âge et les aléas. Autant d'épines, autant de vie. Votre passion inassouvie trompera la fatalité tant que vous en serez piqué. Qu'importe alors l'éloignement, qu'importe la fuite du temps. En m'ayant cédé votre fleur, vous serez mon amant rêveur. L'âme à jamais auprès de moi, jusqu'en vos plus lointains exploits.